Jeudi 6 août 1914. Ses pantalons rouges coquelicots transportèrent Alphonse vers mai. Comme il lui semblait loin ce dernier mois de printemps qui, cette année, avait donné neige et glace à foison et retardé l'éclosion des violettes. Sur la place écrasée de chaleur où les soldats piétinaient en attendant de monter à la gare, Alphonse se surprit à fredonner le temps des cerises. Il imagina Louise, emmitouflée, les bras chargés de corbeilles pleines de fruits, courir jusqu'à lui dans la neige épaisse et moquer ses pantalons bons pour parader, pas pour faire la guerre, avant de s'échapper et de remonter vers le cours des arrêts. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Il ajusta son fusil sur l'épaule et avança pour se ranger aux côtés des gamins encore tout étonnés de se retrouver engoncés dans leurs uniformes, avec l'équipement qui pesait un âne mort, eux qui, hier encore, moissonnaient, qui lançaient leur corps agile à l'assaut des champs de blé ou de lavande. Seul à chanter, il resta, légèrement en retrait du gros de la troupe, comme le lui permettait son grade. Ce privilège ne dura pas bien longtemps. L'adjudant de compagnie lui hurla de se taire et de rentrer dans le rang. Le caporal Alphonse Richard s'exécuta et attendit sous le soleil que d'autres ordres tombent. Ampé, ampé ! La troupe traversa la ville au pas. Certains jeunes avançaient à contre-temps, incapables d'ajuster leur marche au rythme scandé par l'adjudant. Furibard, forcément, et poussant les décibels pour remettre les maladroits bien comme il faut dans le moule. Alphonse ne connaissait pas ce type. Un tout petit homme, au cou de taureau et aux épaules larges comme la grande fontaine de Digne. Visiblement fier de la barrette argentée qu'il arborait sur les manches de sa vareuse, à tel point qu'il lançait quelques coups de menton vers la foule massée sur les trottoirs, comme s'il quémandait un bravo ou un coup d'œil complice. En passant sur le pont qui enjambait la Bléone, Alphonse se distingua parmi les badauds murés dans le silence la silhouette géante de Marcel, son copain menuisier. Colosse depuis la naissance, il aurait dû être mobilisé lui aussi, mais il avait perdu sa main gauche l'an passé, tranché net par une machine. Il resterait à Digne. Marcel agitait sa main valide en criant « Vive la France !» Alphonse ne lui répondit pas. Il baissa les yeux, envahi par un sentiment de jalousie dont il eut tout de suite honte et qu'il porta en lui jusqu'à son arrivée en gare. Un attroupement de silhouettes foncées les attendait devant la bâtisse PLM, d'où s'agitaient quelques petits drapeaux brandis par des enfants à la joie contenue. De part et d'autre du quai où sommeillait encore une locomotive, s'étaient rangées des femmes à fichus noirs, des bambins agrippés à leurs blouses et des vieillards à moustaches et à l'œil humide, accrochés à leurs charrettes. Eux connaissaient cette excitation du départ. Ils étaient revenus de la guerre de 70. Ils n'avaient pas oublié. Ils n'avaient oublié ni le vacarme, ni le vide dans lequel ils s'étaient tous sentis précipités, une fois évanouis les lumières de la ville. Une fois laissés derrière eux les montagnes et les routes familières. Ce paysage qui les enveloppait et les nourrissait depuis toujours de ses lignes, ses couleurs, ses bruits, ses odeurs, ils en furent un jour arrachés, eux aussi, brutalement. Chargé de cette mélancolie qui étouffait toute parole, Alphonse monta dans le premier wagon qui se présentait à lui, machinalement. Pris dans un flot de cliquetis, de roulements de talons et de raclements de gorge, il se souvint des moutons de son grand-oncle au moment de rentrer à la bergerie, les jours d'orage. Il faisait ce bruit-là, teinté de peur et de précipitation. Sauf que là, remontaient du quai des « Adieu, adieu, revenez-nous vite !» lancés par les mères, les sœurs, les mamans, les amoureuses. La locomotive se réveilla alors que le jour commençait à s'en aller. Elle jeta des sifflets suraigus dans le ciel de Digne et s'élança dans un vacarme de vapeur épaisse qui empêcha Alphonse de voir s'éloigner peu à peu les arbres, les maisons, son cher Cousson et l'azur immaculé du sol natal. Le convoi traversa les basses Alpes dans un silence cotonneux à peine plombé par le roulement sourd de la motrice. Pas un mot ne trouva son chemin à travers les dents serrées de ces hommes agglutinés dans les wagons, encore imprégnés du cagnard de la journée. Les plus jeunes s'endormirent sans tarder, sauf un. Alphonse le dévisagea un bon moment. Il se rongeait les ongles en reniflant, le visage agité de tiques. Toutes les 10 secondes, il s'essuyait le nez d'un large mouvement de manche. Soudain, il se lança vers la fenêtre et se pencha dans le vide. Son fusil l'empêcha de basculer complètement. Alphonse le rattrapa par la crosse et le jeta vers l'intérieur du wagon. « Pas le moment de déserter, soldat. Pas le moment de mourir. »«
Je sais, » répondit le gamin. Le visage blême. « Mais j'ai trop peur, je veux rentrer à la maison. »
Alphonse se tut, respira un grand coup et lui tendit sa fiole de génépi.
« Ça va te faire du bien, ça, Minot !»
Le jeune homme en avala une gorgée et il s'affala contre la paroi de bois du wagon. Alphonse s'installa à la fenêtre et il écouta la machine avancer dans la nuit noire, en récitant sa musique répétitive de pistons, de bielles et de roues. Elle le berça jusqu'à Marseille.